Bonjour bien-aimés. Nous voulons bénir Dieu parce que c'est lui qui est le souffle de notre vie. Souffle de Dieu, nous te bénissons, même si parfois, comme aujourd'hui, ce matin, quelques-uns d'entre nous peuvent être pas bien portants et on veut se souvenir de Matthieu dans nos prières. Mardi dernier, j'avais proposé qu'il y ait quelques témoignages et plusieurs d'entre vous ont témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie ou est en train de faire encore. Et puis avec une sœur de notre communauté, peut-être que certains le savent, peut-être que d'autres ne le savent pas, voilà. Il y a tout un accompagnement qui est fait aussi de façon individuelle ou avec quelques frères, quelques sœurs de la communauté. On fait des études bibliques pour les aider à grandir dans leur foi, à maturer, à connaître le Seigneur. Et justement, l'une des sœurs qui est aussi dans ce processus avec cette formation biblique, on a évoqué la question. Et puis, l'idée, c'était que si elle le voulait bien, qu'elle puisse témoigner. Avec la petite différence ce matin que je vais pas pouvoir couper les YouTube, donc si tu témoignes, tu acceptes du coup que tu fasses partie de cette vidéo qui va rester sur YouTube. Ça te va? Très bien. Donc, je vais inviter Agnès, elle veut témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie, et je trouve que c'est bien qu'au culte, que quelques-uns d'entre nous aient l'opportunité de dire ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Merci.
Bonjour bien-aimé. Alors voilà le témoignage que je vais vous faire aujourd'hui. C'est celui de reprendre la route de l'étude biblique. C'est mon projet 2022. Voilà, que j'ai mûrement réfléchi. Et j'ai eu la réponse à mes prières par rapport à ce projet biblique qui conduira vers le baptême. Cette réponse à mes prières a été « Je t'invite à ma table ». Cette phrase, je l'ai entendue le soir du 3 juillet 2021, lors de la cérémonie de mon fils pour son mariage. Je ne comprenais pas quelle était cette phrase, cette invitation. Plusieurs mois ont passé et j'ai vu ma fille qui a été invitée à cette table et j'ai compris. Oui, il était temps pour moi de faire rase du passé et d'avancer. J'ai continué à prier dans ce sens. Il m'aide et m'accompagne dans mes entreprises. Il y a maintenant 2 semaines environ, le pasteur a annoncé une réunion pour parler de nos objectifs. Je n'ai pas pu rester, alors je lui ai envoyé mes désiderata. Cette année, j'aimerais reprendre l'étude biblique. Depuis, j'en suis à ma 2e étude, et dans ce livret, il y a une annotation faite par le pasteur il y a quelques années déjà. J'ai débuté cette étude en janvier et février 2018. Et au même jour pour jour. J'ai tout arrêté car j'avais trop d'interrogations sur le baptême. Et je pense vraiment que chaque chose en son temps et que tout vient. Dieu nous aide et nous répond. Le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Amen. Quel encouragement de la façon dont Dieu agit dans la vie des gens que nous sommes. Il agit en son temps. Il agit en son temps. Notre sœur fait partie de la première promotion quand nous avons lancé les coups de croissance en 2018. Elles étaient 3. Nous avons fait ce parcours. Et puis, on est arrivé à ce moment, comme elle a dit. Voilà. Et puis, on s'est dit, on va laisser le temps à Dieu. Dieu va faire son travail au moment opportun. Tu décideras avec le Seigneur ce que tu veux faire. Et donc, elle m'a rappelé vendredi dernier de notre deuxième étude biblique. Elle a dit, pasteur, tu sais ce que t'as marqué? Je dis, dis-moi. Elle dit, jour pour jour, le 11 février dernier, 2018, nous étions en train de faire cette étude-là. Et nous y voilà encore à nouveau. J'ai dit, tu veux témoigner de ça? De comment Dieu fait les choses. Si vous n'avez pas la conviction que Dieu est vivant et que Dieu agit même dans notre quotidien, vous ratez quelque chose. Vous ratez quelque chose. Dieu est vivant, il agit, il conduit les choses. Parfois, il faut lui laisser le temps. Parfois, il faut laisser aussi le temps aux gens de maturer. Rien ne sert de se précipiter, car il n'y a que Dieu qui marque les temps et les moments favorables. Et pour notre sœur, c'est le temps favorable. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. J'aimerais donc, dans cette invitation à vivre notre foi, j'aimerais rentrer dans une série nouvelle avec vous qui s'intitule « Travailler à une vie fructueuse ». Travailler à une vie fructueuse. Travailler à une vie fructueuse. Une vie que Dieu bénit. Une vie que Dieu enrichit. Une vie que Dieu aide à s'épanouir. Parfois, on confond le mot épanoui avec le mot qui veut dire se sentir bien sentimentalement, émotionnellement. Je réalise en regardant parfois la capacité qu'ont les êtres humains de créer des choses. Je réalise au travers la capacité que Dieu a donnée à tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas, d'avoir ce génie inventif. Je réalise que quand quelqu'un prend du temps, je suis un cinéaste, donc j'aime beaucoup les films parce que je veux comprendre comment les gens y fonctionnent. Et parfois, la façon dont les gens fonctionnent, ils les mettent dans des scénarios de films. Il y a eu une époque où il y a eu plusieurs films sur la fin du monde. On sentait que c'était vraiment ça que les gens pensaient, hein, jusqu'à ce qu'on ait eu ce grand article avec le calendrier Maya qui annonçait la fin des temps. Et tous les films avaient été faits comme ça à cette époque-là. Hein. 2020, 2000, la fin du monde. Mais c'est intéressant de regarder comment ces gens s'asseyent et ils écrivent les scénarios des films. Et parfois, ils écrivent même les dialogues au mot près. Et je me dis, si des gens prennent le temps de réfléchir, d'innover, de créer. Regardez, là je parle dans un micro. C'est quelqu'un qui s'est assis, qui s'est dit, comment on va faire pour amplifier la voix de quelqu'un pour que quand il parle, il n'ait pas trop d'efforts à faire. Et puis il a inventé le micro. Incroyable. Et puis nous on l'utilise aujourd'hui sans savoir pourquoi il a crié, comment il a crié. Ça fait partie de notre quotidien. Voilà, c'est fait. Non. La pandémie nous a montré aussi qu'il y avait des gens qui s'étaient assis, qui ont dit, bien avant la pandémie, parfois c'est pas toujours simple de se retrouver dans une même salle pour faire des réunions. Comment on va faire pour que les gens fassent des réunions, même s'ils sont pas dans la même salle et s'ils sont dans des pays différents? Ils ont inventé les vidéoconférences. Et les gens peuvent rester sur chacun de leurs 6 continents et faire des réunions en direct. Beaucoup d'entre nous ne le savions pas, mais le Covid, le confinement nous a montré que ça, c'était le quotidien de certaines entreprises et même de certaines grandes églises déjà qu'ils faisaient. Mais c'est des gens qui sont assis, qui disent, il y a une situation, comment on va trouver une solution adéquate? Et je réalise parfois que nous, les chrétiens, on fait des raccourcis quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. On dit, oh, Dieu va faire. On dit, il suffit de prier pour que Dieu agisse. On dit, on fait notre part, Dieu va faire sa part. Et il me semble que même quand on dit, on va faire notre part, c'est l'idée que finalement, on n'a pas tant d'efforts à faire que ça. De toutes les façons, Dieu le verra.
Vas-y.
quelques questions pour nous encourager dans cette réflexion de ce jour et qui ouvre une certaine série de réflexions, mais une réflexion qui veut nous bénir dans notre façon de comprendre ce que nous sommes. C'est ça l'idée, de nous bénir. Et les questions qui sont là, c'est des questions qui sont, vous savez, je vous introduis dans beaucoup de formations ITA, hein, donc ça c'est l'une des formations ITA, principes fondamentaux 2. Comment notre société considère-t-elle le travail, la carrière, le travail bénévole, le travail à la maison? Est-ce que vous pouvez concevoir que Dieu vous a créé pour des œuvres bonnes? Est-ce que dans ces œuvres bonnes, est-ce que Dieu introduit votre travail, votre carrière? Ou quels sont les autres éléments que vous pouvez mettre dans cette expression, les œuvres bonnes que Dieu a créées? Quel rapport y a-t-il, faisons-nous, du fait que Dieu nous a créés de façon unique? Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes unique, sachez que votre empreinte digitale, vous êtes la seule à la voir. Il n'y a pas deux ans. Chaque être humain a une empreinte digitale spécifique, c'est à lui, c'est à personne d'autre. À personne d'autre. Et même les jumeaux, je ne sais pas, je ne suis pas sous le contrôle de certains parents, et même les jumeaux, il me semble qu'ils ont des empreintes digitales différentes. Parfois, même s'ils sont des jumeaux qui se ressemblent. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, chacun de nous a été créé par Dieu un être unique. Unique. Et ça suppose aussi que si nous sommes créés uniques, il y a des œuvres qui nous sont destinées. Ou en tout cas, qui sont sur notre parcours et que nous devons vivre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut repérer que nous avons été créés pour des œuvres spécifiques, de manière spéciale pour des œuvres bonnes? Comment? Et justement, ce parcours que je veux faire avec vous dans ces passages bibliques, c'est de nous aider à cerner cette réalité. Vas-y, s'il te plaît. Le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est celui d'Éphésiens dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2. Vous savez que depuis que nous travaillons, nous étudions cette parole et que nous essayons vraiment de rentrer dans les détails de l'épître aux Éphésiens, on est enrichi parce que c'est une épître dans laquelle l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, dit, et c'est dans cette épître qu'il le dit, il dit, c'est à moi que Dieu a donné d'expliquer à l'Église le mystère pour lequel Dieu a donné l'Église au monde. Et que c'est par l'Église que Dieu a décidé de se révéler dans tout l'univers à ce que nous connaissons et même à l'univers invisible, c'est par l'Église. Et il dit que dans les derniers temps, le plan stratégique de Dieu s'accomplit au travers de l'Église. Et il écrit ça à une église locale qui s'appelle Éphèse. Donc il dit aux Éphésiens qui étaient localisés dans une contrée bien précise de cette époque, vous êtes cette église-là. Par effet d'application, ça veut dire que toutes les églises locales sont dans le plan de Dieu. Donc je rappelle ce qu'on a déjà dit. On avait dit que Créteil, nous sommes dans le plan de Dieu. Et donc si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, si tu es quelqu'un qui commence à aimer la parole de Dieu et que tu viens ici, bah ça veut dire que tu n'es pas là par hasard, que tu es rentré dans le plan de Dieu. Et que Dieu te révèle au fur et à mesure son plan, non seulement pour cette communauté qui s'appelle Créteil, mais pour toi, de façon particulière. Quelquefois, quand on dit ça, c'est comme s'il faut avoir une vie spirituelle, hautement spirituelle, pour discerner. Et c'est ce que je veux vous, c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'il faut être vraiment mystique pour discerner ça? Ou si c'est des choses assez simples, dans lesquelles il nous faut continuer de marcher et parfois rentrer. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Il dit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, écrit cette parole, qui reste une parole de Dieu, une parole éternelle, il le dit depuis le chapitre 1 de cette épître aux Éphésiens dans un contexte où il parle de la mission de l'Église. Donc ce texte que nous lisons s'inscrit totalement et pleinement dans la mission de l'Église. Et plus spécifiquement à partir du chapitre 2, il va dire dans cette mission de l'Église, voici le positionnement individuel de chaque chrétien. Et c'est ce qu'il fait. Du verset 1 jusqu'au verset 3, il va dire ce que nous étions avant, sans Christ. Quelle était notre condition? Quelle était notre position? Et à partir du verset 4, il va redire la nouvelle position que nous avons et toutes les richesses auxquelles cette nouvelle position sont attachées. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché, tous ont privé de la gloire de Dieu, il n'y en a même pas un seul qui puisse dire, moi, jamais sans péché. Donc, nos œuvres ne peuvent pas nous racheter, aussi belles soient-elles. Parce que comme le disait quelqu'un, même si nous sommes des gens engagés dans de bonnes œuvres, nous n'avons jamais tué, jamais faire quoi que ce soit, Jésus établit un principe qui est très fort. Il dit, c'est pas forcément les actes qui nous condamnent, c'est nos intentions, c'est déjà nos pensées. Il dit, car les actes sont le fruit de nos pensées qui ont été cultivées et maturées. Donc le fait déjà qu'il y ait une pensée mauvaise, elle nous disqualifie. Oh, combien de nous n'avons jamais eu de pensée mauvaise? Combien de nous n'avons jamais eu de pensée mauvaise? La fable dit, ça n'existe pas. Un humain qui n'a jamais eu une pensée mauvaise, montrez-le-moi. Même si je prends cette figure, même le Saint-Père, comme on dit dans certains milieux, il confesse aussi, il demande pardon à Dieu. Même lui, il demande pardon à Dieu. Si c'est lui qui est considéré, bref. Aucun d'entre nous ne peut, de par ses œuvres, se sauver lui-même. Il serait toujours en manque d'œuvres à ajouter pour se sauver. Il serait toujours en manque. C'est la grâce de Dieu qui nous l'offre. Vas-y. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. C'est un principe que Dieu nous enseigne. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Encore plus nous les chrétiens, puisque c'est ce qu'il dit. Est-ce que tu es convaincu, mon frère, est-ce que tu es convaincu, ma sœur, que tu as été créé pour des œuvres bonnes? Que Dieu avait prévu d'avance, dans lesquelles nous devions marcher. Vas-y. Il s'agit au travers de ces études de la parole de Dieu de nous aider chacun de nous à comprendre le rôle que le travail joue dans la vie. Il est important parce que ce texte dit « des œuvres bonnes » et le terme biblique « œuvre » peut aussi être traduit par « travail », par « activité ». Et nous verrons quelques éléments de cela tout au long de cette prédication. Chacun d'entre nous fait partie du plan de Dieu. Et ce plan, c'est bien avant la fondation du monde que Dieu l'avait déjà établi. Bien avant la fondation du monde, Dieu l'avait établi. Le prophète dit, avant même que mes parents aient la pensée de me faire venir au monde, toi tu le savais. Et même quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu me connaissais. Et quand je maturais dans le ventre de ma mère, mois après mois, tu me connaissais. Et quand par la délivrance, ma mère m'a fait venir sur la terre des hommes, tu me connaissais. Et le psalmiste dit, apprends-moi à bien compter mes jours, car chaque jour que tu me donnes, tu les connais. S'il ne les connaissait pas, pourquoi à la fin des temps il va nous juger alors? Pourquoi à la fin des temps il va nous demander ce qu'on a fait? Il connaît chaque jour, bien-aimé. Et c'est une grâce que Dieu connaît chacun de tes jours. C'est une grâce. Ça veut dire que chaque jour qui se lève, ton Père a un œil attentif et affectueux sur toi. Un peu comme nous, les soirs, on couche les enfants, même quand ils sont bébés. On dort. Point fermé, mais quand même, quand ils sont bébés, on est un peu à l'aide quand même de temps en temps de passer dans la chambre, parce qu'on ne sait jamais. Ces petits loulous sont capables, même s'ils ne sont pas encore forts, de se retourner, de se trouver le nez contre le matelas. Et des fois, on est arrivé au bon moment, parce que le petit loulou, son nez sur le matelas, il est en train de s'étouffer. Comme si Dieu nous avait réveillés au bon moment dans la nuit pour aller au bon moment dans la chambre, pour le sortir de cette détresse respiratoire. Et chaque matin, quand nos enfants sont tout petits, nous ouvrons la porte de leur chambre pour voir comment ils vont et pour les réveiller. Dieu est comme ça, chaque matin. Il nous voit, il nous connaît, il veille sur nous. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Alors que les gardiens qui veillent sur la ville se relèvent, par sentinelle, lui, il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours là, présent pour toi. Bien-aimé. Nous voulons, au travers ce passage, voir le cœur de notre appel en tant que disciples de Jésus-Christ. Le cœur de notre appel. Vas-y. Ce cœur de notre appel nous dit, du verset 8 au verset 9, que c'est Dieu qui a l'initiative. Et il collabore avec nous. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des robots qui attendons d'avoir un programme de Dieu et de commencer à bouger. Non, il nous a créé des êtres libres. Il a insufflé en nous un souffle de vie qui est totalement libre, qui est inventif, comme je le disais au départ, qui est nanti. L'animal le plus complexe, on dit, c'est l'être humain. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé sur l'espèce animale disent franchement, l'espèce humaine, on ne sait pas même si on va arriver un jour à savoir tout ce qu'on est capable d'être. Parce qu'on a été créé en image de Dieu. Tout simplement. toutes les connexions qui sont en nous, que les scientifiques continuent de découvrir, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et le texte dit, Dieu est toujours à notre recherche. Même quand nous n'étions pas dans le Seigneur, il était à notre recherche. Et j'ai rappelé mardi dernier la parabole du fils prodigue, qui avait pris cet héritage de son père. On est en Luc chapitre 10, qui est allé le dilapider dans la débauche, alors que ce n'était pas les valeurs que son père lui a données, et alors qu'il était dans la détresse, dans la galère, dans la misère, il a dit, chez mon père, même les serviteurs ont une meilleure condition que moi, actuellement, je irai, je retournerai vers mon père, je lui demanderai pardon, et je lui dirai, je sais, je ne suis plus digne d'être ton fils, mais prends-moi juste comme de tes serviteurs. Et le texte nous dit, c'est Jésus qui met en illustration cette parabole. Il dit, alors que le fils était en train de revenir, alors qu'il était encore loin de la maison, le père le vit loin et le père alla à sa rencontre. Le père le serra très fort dans ses bras et l'embrassa longuement. Et le père de dire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu, le voilà retrouvé. Faites-lui tous les soins corporels que vous pouvez faire parce que là, il est dans un état oulala. Et puis ce soir, il y a la fête à la maison. Et Jésus dit cette parabole pour dire que Dieu est toujours en train de chercher ses enfants qui sont dehors, toujours. Il ne se lasse pas. Et il dit ça par rapport à des gens qui sont soi-disant des super saints, des super religieux, les pharisiens, les scribes, qui disent, oulala, Jésus marche avec des gens qui... Franchement, c'est pas des gens avec marche, ces gens-là. C'est des gens de mauvaise vie, des pécheurs notoires. Et Jésus donne cette parabole pour leur dire justement, c'est parmi ces gens-là que Dieu cherche ses enfants. Bien-aimé, le texte dit que chacun d'entre nous, nous étions dans les ténèbres, loin de Dieu. Nous vivions comme le reste des hommes. En tout cas, pour ceux qui sont pas nés dans les familles chrétiennes, nous savions ce que c'était que des valeurs bonnes, mais des valeurs de Dieu. Pour quelques-uns d'entre nous qui avons un cheminement, disons, religieux, mais pas évangélique, pas protestant, c'était des formalités. On allait les dimanches dans ces églises-là par formalité. On en ressortait comme on était rentré. Mais on avait au moins la satisfaction d'être allé dimanche à l'église. Ah, où t'étais dit, j'étais à l'église. Tu crois que quoi, j'étais à l'église aussi. On se dit, alors, voilà, ça faisait bien. On n'était même pas conscient de tout ce qu'on faisait là-bas. Moi, le premier. Avec du recul, j'ai dit, oula, Serge, franchement. Tu t'imagines, tu étais devant un évêque le jour de ce qu'on appelle ta confirmation, et tu étais ivre de boissons alcooliques. T'as fait ça. T'avais que 17 ans à l'époque. Incroyable. Si moi j'ai fait ça, c'est que beaucoup font ça. Dans ce milieu-là, beaucoup font ça. Parce que c'est pas notre âme intérieure qui est, c'est le m'as-tu vu, c'est ce que les autres, on fait ça pour les autres en fait. Alors que vous étiez dans les ténèbres, je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Je peux dire, je viens de loin. Dieu m'a rattrapé au bon moment. Je suis fier de Dieu, je suis reconnaissant à Dieu. Les amis qui me connaissent, depuis qu'ils savent que je suis passé du, oula, franchement, Dieu a travaillé en toi quand même. Je n'étais pas un criminel, c'est pas ça que je veux dire. Je n'ai tué personne. Mais j'étais comme les jeunes de mon époque. On faisait un peu des choses sans savoir les conséquences. On pensait que c'était bien, comme tout le monde. Et quand il s'agissait de l'église, bon, on faisait comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Cherchez votre relation personnelle avec Dieu. Dieu Il veut établir une relation personnelle avec vous, peu importe l'âge que vous avez, aussi jeune soyez-vous. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu ressemble à ceux qui ont à peu près leur mentalité vis-à-vis de Dieu. Parce que l'enfant, il dépend de ses parents. Il dit, alors que nous étions dans les ténèbres, Dieu est venu nous chercher. C'est lui qui a pris l'initiative. Alors que nous étions aveuglés spirituellement, que nous ne comprenions rien à ce qui était de l'évangile, il est venu nous donner la lumière des yeux. Il nous a ôté cette cécité. Il nous a redonné la vue pour comprendre les choses de Dieu. C'est Dieu qui a produit ces choses en nous. Il a collaboré avec notre âme. Un peu comme s'il a titillé, il a envoyé une impulsion à notre âme et notre âme a bien réagi. Et notre réaction a été notre foi, notre confiance. C'est pour ça qu'il dit que le salut est une grâce de Dieu et que le chrétien l'a obtenu au moyen de sa foi. Car la réponse à l'action de Dieu, c'est la confiance qu'on lui place, c'est la foi qu'on a. C'est ça notre réponse, c'est ça notre implication. C'est pour cela que nous n'avons pas de mérite dans notre salut. Je peux pas dire, Seigneur, depuis, je t'attendais parce que toutes les œuvres que j'ai faites, c'était sûr que je méritais quand même ça. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Il dit, alors, si vous mesurez toute la grâce que vous avez et que Dieu vous allez vous chercher alors que vous étiez dans cet état, aimez votre Dieu. Rendez-lui tout l'amour qu'il vous a donné. Parce que lui, non seulement il nous a sauvés, mais en plus, on va le voir, il nous enrichit d'œuvres bonnes pour que nous les accomplissions. Incroyable. Il ne nous sauve pas seulement, il nous prépare, il nous trace un chemin. Il nous montre comment rentrer dans ces chemins-là. Vas-y. Chacun d'entre nous est l'ouvrage de Dieu. Chacun d'entre nous est l'ouvrage de Dieu. Le texte, si on le traduit, il veut littéralement dire que nous sommes des chefs-d'œuvre. Que Dieu est un artisan et qu'il a fait de chacun de nous un de ses chefs-d'œuvre. Vous savez, souvent les artistes, ils ont une galerie et puis ils disent, celui-là, c'est ma meilleure œuvre. Non, chez Dieu, il n'y a pas de meilleure œuvre. On est chacun un chef-d'œuvre de Dieu. Chacun. Chacun de nous est un chef-d'œuvre de Dieu. Chacun de nous est un chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu parce que nous avons été créés. Une œuvre que Dieu seul peut accomplir. Il a accompli dans ta vie, il a accompli dans ma vie. Il n'y a que lui qui l'a fait, personne d'autre. Et étant donné qu'il nous a créés comme ça, il a préparé des œuvres. Et souvent, c'est là que je dis souvent, on pense qu'il faut avoir, il faut avoir un degré de mysticisme au point de se lever, comme on dit dans la spiritualité. Mais non. C'est des choses parfois qui sont simples, mais il faut juste qu'on les comprenne pour les vivre. Nous sommes son ouvrage. Cela fait référence au fait que chacun d'entre nous, pris individuellement, est le produit de son artisanat. Vous savez que l'artisanat, c'est le contraire de la manufacture industrielle. L'artisan prend du temps dans ce qu'il fabrique, dans ce qu'il crée. Il y met du sien. Il modèle chacun de nous personnellement. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu connaît chacun de nous par nos propres noms. Et qu'il est capable de te dire combien de brins de cheveux t'as sur la tête. Il les compte, il les connaît. Mieux qu'un scanner. Et il dit, aucun brin de tes cheveux ne tombe sans qu'il ne le sache. Aucun brin de tes cheveux ne tombe sans qu'il ne le sache. Il te connaît. Et il semblerait que si on regarde encore ce mot, œuvre, c'est comme si chacun de nous était un poème unique que Dieu a écrit. Un poème unique que Dieu a écrit, avec toute la force de la beauté qu'il y a dans les poèmes, dans les façons de dire les choses de façon particulière. Quelqu'un a dit avec... C'est comme si Dieu avait fait de chacun de nous une véritable poésie. Il faut vraiment que nous soyons convaincus de cela, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas lié à notre condition sociale. Ce n'est pas lié à notre capacité intellectuelle. C'est lié au fait que nous sommes créés en image de Dieu et que quand nous nous donnons à Dieu, Dieu active en nous le fait qu'il nous a créés comme une chose, comme une œuvre d'art, comme un chef-d'œuvre. Amen. Vas-y. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Quelles sont ces œuvres bonnes, là, bien-aimés? Le mot œuvre bonne ici peut être parfois rapporté à l'énergie. Et dans cette énergie, c'est comme si on disait Dieu a mis en nous un carburant qui doit aider à faire fonctionner toutes les œuvres bonnes que nous allons rencontrer au fur et à mesure de notre marche sur la terre des vivants jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Cela inclut toutes sortes de bonnes actions et toutes sortes de travaux ou d'activités qui font notre quotidien. Parfois, on a peut-être eu, on a voulu peut-être limiter œuvre bonne à tout ce qui est lié à l'Église, c'est-à-dire à la mission, à l'étude biblique, au fait d'être engagé à plein temps comme moi, pasteur. Mais il y a d'autres mots pour dire ça. Ce mot-là veut dire toutes les activités dans lesquelles un chrétien né de nouveau s'implique, il doit le vivre comme quelque chose que Dieu a placé devant lui pour que ce soit des choses utiles et bonnes. Dieu les a préparées d'avance. Si tu es devenu parent, Dieu a préparé d'avance que tu sois parent. Donc c'est une œuvre bonne. Il te donne cette œuvre-là d'être parent. Pour faire venir quelqu'un au monde, pour prendre soin de lui et pour lui donner sa chance d'être aussi quelqu'un dans le monde. N'est-ce pas là une œuvre bonne? On dit que la capacité d'enfanter nous montre un peu la notion de Dieu créateur. Dieu, il crée à partir de rien, hein, mais nous nous créons à partir de nos cellules, à partir de ce que nous sommes. Mais pour avoir écouté Caroline, pour avoir écouté beaucoup de mamans, c'est quand même exceptionnel de donner la vie. C'est quelque chose de donner la vie. N'est-ce pas les mamans? C'est quelque chose de donner la vie. Donner la vie à un petit être. Et vous le voyez grandir. Et vous en prenez soin. Comme ce matin, tu prenais soin de ton petit là-bas dans le bureau. Il dit ça, c'est une des œuvres bonnes, être parent. C'est un travail. C'est une œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance pour que vous et moi qui sommes chrétiens, nous les accomplissions. Donc, nous devons vivre cette qualité de parent avec reconnaissance parce que c'est une œuvre bonne. Il dit, si tu es jeune, que tu es chrétien, ou que tu es sur la voie de la chrétienté, et que tu fais des études, tes études, c'est une œuvre bonne. Pourquoi? Parce que tes études vont te façonner. Tes études vont t'apprendre la connaissance. Tes études vont t'apprendre un métier. Et ce métier va te donner d'être autonome demain, d'avoir ta propre vie. Et par ce métier, tu vas bénir aussi des gens. Avant, à la réforme, donc on est au XVIe siècle, quelqu'un comme Luther disait que toute activité dans la société est une vocation. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a séparé activité et vocation. Je l'ai déjà dit, je le dis, c'est dit, par exemple, un instituteur, il n'estime pas qu'il est, c'est une vocation, il estime que c'est un métier. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il fait pour avoir son salaire. Voilà. Même s'il transmet la connaissance, mais pour lui, c'est pas une vocation. Voilà. Il aime pas forcément, c'est pas qu'il aime les enfants plus que les autres. C'est parce que peut-être il aime l'histoire, donc il devient professeur d'histoire pour communiquer quelque chose sur l'histoire. Mais si on le vit en termes de vocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux, et avec du recul, je suis reconnaissant pour toutes mes professeurs, mes maîtresses des maternelles, ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont été utiles dans ma vie. Ils ont produit une œuvre bonne en m'enseignant, en m'éduquant. Parce que si je suis Serge Aimé Oulaï aujourd'hui, à la cinquantaine presque, c'est parce qu'il y a eu toutes ces personnes-là. Si t'es sage-femme, si t'es infirmière, regarde ce que tu fais. C'est énorme ce que tu fais. Tu aides les habitants de ce pays à veiller sur leur santé. Tu es là quand ils ont des problèmes de santé. Si ça, c'est pas une bonne œuvre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si tu es dans le métier de l'automobile, que tu es carrossier, garagiste, et qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu fais une bonne œuvre. Parce que tous ceux qui sont embêtés avec leur véhicule, bah, heureusement qu'on a des gens pour nous aider à faire ça. Tout n'est pas d'abord une question de gagner de l'argent quand on est chrétien. Bien sûr, on en a besoin. Mais quand il dit que les chrétiens ont été investis par Dieu pour accomplir toutes bonnes œuvres, c'est ce qu'il dit. Il dit que dans toutes les sphères de la société, là où vous êtes, tout ce que vous exercez comme métier professionnel, comme responsabilité dans la famille, comme responsabilité sociale dans les amitiés, tout ça, c'est des bonnes œuvres. Et qu'il ne faut pas les dissocier forcément. Parce que c'est pour ça que Dieu t'a créé, mon frère. C'est pour ça que Dieu t'a créé, ma sœur. Pourquoi il t'a mis dans ta famille dans laquelle tu es? Pourquoi tu penses? C'est pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. J'aime cette parole de ce missionnaire. Il dit, quand Dieu dit, qui est-ce qui est là au sein de la famille Oulaï pour que Dieu bénisse cette famille Oulaï? Dieu dit, mais il y a Serge. Parce que Serge, il est converti, c'est moi qui l'ai amené à la foi. Selon Éphésiens 2 qu'on vient de lire. C'est Dieu qui m'a amené à la foi parmi les Oulaï. Il dit, chez les Oulaï, j'ai résolu le problème, il y a Serge. Ça ne veut pas dire que Serge va arriver à convertir tous ses frères, mais ça veut dire que Serge va au moins prier pour tous ses frères dans sa famille, pour qu'il rencontre Dieu. Et que Serge, selon la parole de Dieu, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire des œuvres bonnes dans sa famille, pour qu'au travers de lui, les membres de sa famille voient l'amour de Dieu. Donc cette bonne œuvre, tu es né dans une famille, tu as été touché par Dieu, tu t'es tourné à Dieu dans ta famille, c'est pour cette œuvre bonne que Dieu t'a mis dans ta famille. Dans l'épître aux Corinthiens, il dit, je fais de vous quoi? Je fais de vous des ambassadeurs de la réconciliation. Ça veut dire que s'il y a des choses cassées dans nos familles, honnêtement, je le dis avec mes mots, Dieu ne va pas descendre pour les régler. Parce que tu es là. Parce que tu es là, tu es sa fille. Tu es son fils. Si Dieu devait descendre à chaque fois pour régler un problème qu'il nous a confié à régler, bah à quoi on sait? Tout n'est pas facile. Tout n'est pas évident. Bah si c'était facile, Dieu le premier nous le dirait. 7 milliards d'habitants. Souvent, Dieu dit à Israël, il dit, franchement, vous êtes un peuple au cou raide. Je vous montre le chemin à suivre, mais c'est comme si vous ne voyez pas. Votre cou, il est bloqué dans une direction qui n'est pas la bonne. J'ai beau vous montrer la direction, votre cou, il ne vient pas là. Et parfois, dans ce qu'on appelle les expressions humaines de Dieu, je suis un peu fatigué de ce peuple. C'est comme un pédagogue qui dit, oh là là, j'ai utilisé toutes les pédagogies pour que vous compreniez, mais qu'est-ce que je vais faire de plus avec vous là? Ah, souvent, il y a des professeurs qui disent à les élèves. Parfois, c'est un électrochoc. La classe se réveille. On dit, bon, attends, quand même. OK? Parfois, c'est peine perdue. Parfois, c'est peine perdue. Mais Dieu, il n'y a jamais de peine perdue avec lui. La parabole du fils prodigue, il est toujours à notre recherche, toujours pour relever les choses. Bien-aimé. Tout ce que nous faisons, qui ne sont pas des choses illicites, mais qui sont des choses selon la volonté de Dieu, sont des bonnes œuvres. Tout ce que nous faisons, ce sont des bonnes œuvres. C'est pour cela que Jésus a dit, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale à partir de Jean, chapitre 16, chapitre 17, il dit, je prie pour ceux-là que tu m'as donné. Il dit, non seulement pour ceux qui sont là devant moi, mais pour tous ceux qui viendront après eux. Je prie parce que tu ne vas pas les enlever du monde, mais tu vas les garder dans le monde pour qu'au travers de leur témoignage, le monde sache. Par l'amour qu'ils manifesteront les uns envers les autres et qu'ils manifesteront en général, le monde saura. Je prie que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes des artisans des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Parfois, j'ai le sentiment que la notion de gloire de Dieu est bien loin de nous. Vous savez, quelle est la gloire d'un parent quand il a des enfants? C'est de les voir réussir dans la vie. Et quand un parent dit que son enfant a réussi, est-ce que ça veut dire forcément que son enfant a eu le métier que lui souhaitait? Non. Réussi, c'est que l'enfant s'est bien battu dans la vie, qu'il a eu sa petite situation ou sa grande situation et qu'il est devenu autonome et qu'il est capable lui aussi de fonder famille et d'avancer. Et de ne plus être à charge des parents, mais d'être une bénédiction pour les parents. C'est de ça qu'on parle. Et la gloire de Dieu, c'est comme ça. La gloire de Dieu, c'est de voir les chrétiens être pétris de l'amour de Dieu et vivre toutes les bonnes œuvres avec reconnaissance que Dieu a mis devant eux. Tout n'est pas facile, loin s'en faut. Il y a des environnements professionnels qui sont des véritables nids de crabes, on ne va pas se mentir. Ou quand tu te lèves le matin, tu n'as même pas envie d'y aller parce que, oulala, tu sais à quoi t'attends. Mais, pendant que tu es là, demande la force à Dieu de le vivre comme une bonne œuvre, jusqu'à ce que Dieu te mette au large, jusqu'à ce que Dieu te change, ou Dieu change l'environnement, ou Dieu change ta place. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour cela que nous pouvons, dans ce genre de situation, demander la force à Dieu. Puisque c'est lui qui le dit. Il a prévu ses bonnes œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. Donc si c'est lui, faisons-lui confiance. Quand c'est dur, disons, tu m'as mis là, mais c'est dur. Je vais te le dire, Seigneur, c'est dur quand même. Hein? Si je peux changer, aide-moi à changer. Mais pendant que je suis encore là, aide-moi à le vivre autrement. Mais bien plus, Dieu est le Dieu de la bénédiction bien-aimée. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Je te mettrai au large. Je te sortirai de cette situation. Dans le tunnel dans lequel tu es, il y a un jour qui se lèvera. Je te tiens la main. Hein, tantine? Je te tiens la main. Je ne te lâche pas. Terminons cet encouragement pour cette prière. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ma prière ce matin, c'est que la force de Dieu soit capable de nous donner, de considérer que le concept du travail a été déformé, qu'on a conçu travail comme étant simplement c'est que j'ai et qui me donne un salaire. Alors que l'œuvre qui est traduite par travail va au-delà de mon milieu professionnel. Je suis dans des bonnes œuvres au sein de ma famille. je suis dans des bonnes œuvres au sein de mon milieu professionnel. Je suis dans des bonnes œuvres au sein de mon milieu social. Je suis dans des bonnes œuvres. Si nous réduisons trop le travail à la valeur de la carrière, nous passons à côté de quelque chose. Oui, il faut chercher à évoluer dans ton métier. Moi, j'y encourage. Oui, si vous pouvez gagner plus pour mettre votre famille à l'abri et être capable de soutenir autant que possible, oui, il faut le faire. Mais jamais au détriment de la vie de famille. Jamais au détriment de votre santé. Jamais au détriment de vos engagements dans l'Église. J'aime ce témoignage, je ne sais pas s'il est vrai, mais c'est un témoignage qui me plaît moi-même parce que ça m'aide à garder l'essentiel. Ce frère pour lequel on priait, en tout cas c'est quelqu'un qui le disait, il a donné ce sujet. Il voulait évoluer dans sa carrière, il a donné ce sujet à l'Église. Et à plusieurs reprises, en tout cas, quelques-uns lui ont dit, ce sujet de prière, on va prier, mais on a comme l'impression quand même que Dieu te dit attention. Parce que quand tu décris les postes de responsabilité pour lesquels tu veux qu'on prie, pour nous qui te connaissons, on sait que ça va pas être facile. Tu pourras pas faire l'équilibre. Quelqu'un d'autre aurait pu, mais toi, dis oh là là, qu'est-ce que vous dites là, quand même, me connaissez pas si bien que ça, je vais arriver à m'en sortir. Et les faits n'ont pas menti parce que quand cette carrière s'est ouverte devant lui, honnêtement, c'était une belle carrière. Mais il avait plus le temps. Il n'avait plus le temps pour lui et Dieu. Il n'avait plus le temps pour sa famille. En fait, il n'avait plus le temps que pour sa carrière. Parce que les exigences étaient tellement élevées qu'il avait tout le temps le nez dans le guidon. Et ce qui était une bénédiction s'est manifesté comme une malédiction pour lui. Donc oui, au plan de carrière, oui à la réussite, moi j'aimerais tellement que tous les jeunes de notre communauté aillent de l'avant dans leur carrière, qu'ils aient des carrières vraiment. Parce qu'être carriériste, c'est aussi être capable d'apporter quelque chose de beau à la société, dans son entreprise, dans son métier, dans son corps de métier, apporter quelque chose à la société. Oui, je veux ça pour chacun. Et je veux que chacun de nous soit à l'abri du besoin. Oui, je veux ça pour chacun. Parce que si c'est le cas, on en parlera dimanche dernier, ça a aussi des répercussions sur l'Église, en positif. Par contre, rassurez-vous que ce sont des bonnes œuvres. Rassurez-vous que ce sont de bonnes œuvres que vous accomplissez. Prions. Merci Seigneur. Merci de bénir ton Église et merci de nous aider ensemble. Pour la gloire de ton nom. Amen.